Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et je vous remercie de prendre part au grand titre du jour en ce mardi 26 juillet. Veuillez noter que les grands titres du jour concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Aujourd'hui, il est question d'euthanasie. Santé Canada et les médecins du Québec ne sont pas sur la même longueur d'onde. Il est également question de la réforme du mode de scrutin, des réseaux sociaux dans la vie des ados et pré-ados, des jeunes qui se tournent de plus en plus vers la religion, des analyses de la dernière fusillade en Floride et bien sûr, mesdames et messieurs, de la bonne nouvelle du jour. Débutons maintenant par cet article qui a été publié sur la plateforme de la presse et qui s'intitule « Pas de mode de scrutin parfait, disent les experts au comité sur la réforme ». Voici ce que nous dit la presse. Le comité qui se penche sur la réforme électorale a commencé son étude sur les différents modes de scrutin en se faisant dire par des experts qu'il n'y avait pas de système parfait. Toute la semaine, des professeurs d'université et spécialistes se succéderont à Ottawa pour parler de différents systèmes qui pourraient remplacer le mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour qui prévaut actuellement au Canada. Et oui, mesdames et messieurs, je suis convaincu que j'en ai perdu quelques-uns d'entre vous lorsque j'ai parlé du mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour. Eh bien, c'est pas si compliqué que ça. Si vous allez sur la plateforme de Wikipédia, vous tapez « scrutin uninominal majoritaire à un tour » et vous allez avoir la définition la plus simple, à mon avis, de ce que c'est un scrutin uninominal majoritaire à un tour. Je le répète parce que la formule semble complexe lorsqu'on l'entend. Mais écoutez bien ce que Wikipédia nous dit. « Le scrutin uninominal majoritaire à un tour est, parmi les systèmes électoraux, le mode de scrutin le plus simple que l'on puisse rencontrer. » Donc déjà en partant, c'est plaisant de savoir ça. L'électeur doit choisir un candidat parmi plusieurs. On compte alors le nombre de voix obtenues par chaque candidat. Celui qui recueille le plus de voix, majorité relative, remporte les élections. Alors, on dit que c'est un scrutin uninominal majoritaire à un tour. Donc on choisit seulement un candidat. Celui qui a le plus de votes est le gagnant et ça se fait à un seul tour parce qu'il y a des pays qui vont voter, par exemple, une première fois et on va retenir les partis, les deux partis qui ont le plus haut score et ensuite on va refaire une deuxième élection, donc il y a un deuxième tour et on va voter pour celui qui va former le gouvernement. Alors nous, on a un seul tour, il y a un seul vote. Maintenant, on veut changer ça. Pourquoi? Bien, on veut changer ça parce que, même si c'est le système électoral le plus simple que l'on puisse rencontrer, selon les mots de Wikipédia, eh bien, il reste que néanmoins, en termes de représentativité, on peut dire qu'il y a des décalages. Je vous donne un exemple. En 1998, alors que la majorité de la population avait voté pour le Parti libéral du Québec, eh bien, c'est le Parti québécois qui avait formé le gouvernement. Comment on explique ça? Eh bien, même s'il y a une majorité de gens qui votent pour un candidat, lorsqu'on fait le total de tous les électeurs pour un parti, eh bien, parfois, ça amène un surplus parce que les comtés ne sont pas du même nombre exact et ce n'est pas le même nombre d'électeurs qui va voter par comté. Dans un comté, il peut y avoir 80 % des électeurs qui se sont déplacés. Dans un autre comté, 77 %. Donc, il y a des décalages. Et ce qui fait que la représentativité de la population n'est pas fidèlement exprimée par ce système électoral. Donc, on veut le corriger en ajoutant, par exemple, un pourcentage de représentants pour équilibrer. C'est pour ça qu'on veut parler d'une proportionnelle mixte. Mais, comme le dit l'article, il n'y a pas de système parfait. Donc, le comité va devoir débattre, délibérer pour arriver avec une solution d'ici le 1er décembre 2016. Parce qu'il y a des délais à respecter et on veut s'assurer, parce que c'était une promesse de Justin Trudeau, qu'aux prochaines élections, on ait un nouveau système électoral. Maintenant, si vous lisez l'article, vous allez voir, on débat sur le fait, est-ce qu'on doit avoir un référendum pour changer ça ou non? Parce que ça peut coûter jusqu'à 300 millions de dollars. Les conservateurs, eux autres, sont en faveur d'un référendum parce qu'ils se disent, la population doit se prononcer, ce qui n'est pas mauvais. Mais est-ce que ça vaut la peine, puisqu'on a élu Justin Trudeau et ça faisait partie de ses promesses? Alors, je vous invite à lire cet article qui est fort intéressant et on n'a pas fini d'en entendre parler de cette réforme du scrutin uninominal majoritaire à un tour, mesdames et messieurs. C'est une expression complexe pour tout simplement dire que celui qui a le plus de votes est élu. Voilà. Maintenant, ce n'est pas simplement le mode de scrutin qui génère de vives discussions au Canada. Et oui, l'aide médicale à mourir continue à faire couler beaucoup d'encre. Donc, en ce qui concerne l'euthanasie, l'aide médicale à mourir, eh bien, la presse nous informe ceci. Aide à mourir! Les praticiens font fi de l'avis de Santé Canada. Ce qui arrive, mesdames et messieurs, selon ce que nous rapporte la presse, les médicaments dont l'utilisation est recommandée dans le protocole élaboré par les ordres professionnels du Québec n'ont pas été approuvés formellement pour un tel usage par Santé Canada. Donc, je ne vous citerai pas d'autres éléments de l'article parce que c'est complexe, c'est comme un débat de médicaments, de protocoles. Mais si on résume tout ça, c'est que Québec utilise une certaine médication pour mettre fin à la vie des patients qui en ont fait la demande. Mais le médicament qui est utilisé n'est pas recommandé par Santé Canada. Et donc, il y a un débat entre les deux, il y a des discussions, il y a tout un débat de juridiction. Et donc, ça nous montre une chose, mesdames et messieurs, que l'aide à mourir, ou l'euthanasie, le fait de donner la mort à un patient, c'est plus complexe qu'on pouvait le penser. Et pourtant, on nous a dit, non, on va mettre plein de balises pour rendre ça simple et s'assurer qu'il n'y ait pas de dérapage. Eh bien, il me semble, mesdames et messieurs, depuis que la loi est officiellement passée, on entend parler de plusieurs cafouillages. C'est à suivre, mesdames et messieurs. En ce qui concerne les ados et pré-ados, un autre article de la presse qui est intitulé « Ados, pré-ados et réseaux sociaux », je vous invite, si vous êtes parents, à lire cet article-là parce que ça va mettre la lumière sur les différents réseaux sociaux qui sont prisés par les ados et pré-ados. Il va y avoir quelques conseils pratiques, même quelques conseils éthiques. On va même soulever un dilemme lorsqu'on a des doutes en tant que parents, qu'il se passe quelque chose. Ou par exemple, intuitivement, on a l'impression qu'il y a quelque chose de malsain qui se passe entre son enfant et les personnes qui sont en contact sur ces réseaux sociaux-là. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle valeur doit être priorisée? La transparence? La confiance? Le respect de l'intimité? Alors, on en parle de ça, mesdames et messieurs, dans cet article. Et je vous invite à le lire et à réfléchir. Et si vous êtes en couple, eh bien, en parler entre vous. Si vous êtes monoparental, vous êtes un parent célibataire, eh bien, à ce moment-là, je vous invite à en parler à un couple en qui vous avez confiance pour en discuter. Je vous invite à lire cet article qui s'intitule « Ados, pré-ados et réseaux sociaux ». Un autre article qui touche les jeunes, et ça, c'est vraiment encourageant. Les jeunes se tournent de plus en plus vers la religion. Et oui, mesdames et messieurs, selon le Figaro, pour 43% des chrétiens de fait, la dimension religieuse est importante pour réussir sa vie personnelle. D'une part, les filles, 51%, sont moins nombreuses que les garçons, 55%, à se déclarer croyantes. Évidemment, le Figaro publie des articles qui touchent et qui concernent la France. Et c'est particulier parce qu'en France, il y a plus de garçons que de filles qui se déclarent croyants. Alors que la réalité ici au Québec, c'est différent. Il y a plus de filles dans nos églises. Et je poursuis avec ce que nous dit le Figaro. La religion a délaissé les campagnes pour se diriger vers les grandes villes. Et c'est l'Île-de-France qui détient la palme avec plus de 55% de sa population qui se déclare croyante. Et donc, c'est un bon secteur pour l'évangélisation, évidemment. En seulement 8 ans, le nombre de jeunes se rattachant à une religion est passé de 34 à 53% selon un sondage OpinionWay réalisé par le journal La Croix. Si la religion catholique reste dominante chez les 18-30 ans, 42% contre 4% de musulmans et 3% de protestants, un point commun entre toutes ces croyances, le bouleversement des pratiques. Et moi, ce n'est pas tant le bouleversement des pratiques qui me préoccupe ici, mais c'est le fait qu'en pourcentage, en France, il y a moins de protestants que de musulmans, alors qu'il y a 42 % qui se disent catholiques chez les 18-30 ans, mesdames et messieurs. Là, on ne parle pas de l'ensemble de la population, là. Chez les 18-30 ans, il y a 42 % de ceux-là qui se disent catholiques. 4 % musulmans, 3 % protestants. C'est préoccupant, mesdames et messieurs. On nous dit également que 40 % prient, 30 % disent que la dimension spirituelle est importante dans leur vie et un jeune sur cinq a déjà participé à un pèlerinage. Ça, c'est fort, mesdames et messieurs. Chose étonnante, même parmi les agnostiques sont ceux qui ne peuvent pas dire que Dieu existe, ils ne peuvent pas l'affirmer. Eh bien, la prière a trouvé sa place. Même s'ils ne peuvent pas affirmer que Dieu existe vraiment, ou sous quelle forme il existe, ils vont quand même dire qu'ils vont prier à l'occasion. Un jeune non-croyant sur quatre a déjà prié dans sa vie. Intéressant. Écoutez bien ce que nous dit Le Figaro dans ce qui suit. Se réapproprier un espace jusqu'alors boudé par une génération post-68 apparaît comme un moyen d'émancipation pour cette jeune génération. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, mesdames et messieurs? Ça veut dire que les boomers ont délaissé la religion avec la Révolution tranquille. Ils se sont dit, c'est plus pour nous, ça. Mais maintenant, la génération Z, elle, voit ça comme une manière de s'émanciper. C'est incroyable, hein? Ce que le vide peut causer. Alors, c'est important de prier pour nos jeunes, c'est important de leur partager ce qu'on vit, ce qu'on expérimente avec Dieu, et de laisser la parole de Dieu faire son effet. En ce qui concerne les jeunes, vous le savez, mesdames et messieurs, vous l'avez appris, il y a eu une autre fusillade en Floride. Et je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais ce qui en est sorti des analyses, c'est que la piste terroriste a été écartée. Et vous savez, ça, c'est un autre exemple. Quand je vous disais que ce ne sont pas tous les attentats terroristes qui sont reliés, par exemple, aux islamistes. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ce n'est pas contre l'islam qu'on doit se battre, mais contre le terrorisme, contre toute forme de violence. Et si on en retrouve dans l'islam, il faut condamner ces terroristes. Si on en retrouve chez des agnostiques, il faut condamner ces terroristes. Si on en retrouve chez des athées, il faut condamner ces terroristes. Et c'est pour ça que ce n'est pas la liberté religieuse qu'on doit encadrer, mais beaucoup plus notre sécurité. Et de se donner des moyens pour pouvoir vivre en paix, ici, dans ce monde. Mais on le sait, la paix ne perdurera jamais puisque le cœur humain est mauvais et parce que Jésus l'a déclaré. Mais, mesdames et messieurs, je veux terminer cette émission par la bonne nouvelle du jour. Et voici une bonne nouvelle qui a été publiée sur la plateforme du Journal de Montréal et qui s'intitule « Il sort de l'itinérance pour fonder son entreprise ». Voici ce qu'on nous dit. Un itinérant de 56 ans a réussi à se sortir de la rue en construisant un rickshaw pour promener les touristes au centre-ville de Gatineau. Il peut courir jusqu'à 40 km par jour et il a même créé sa propre entreprise et engagé d'autres itinérants. Un pas à la fois, Joseph Hugues Bélanger a amassé assez d'argent pour louer un modeste atelier sans électricité où il entretient et répare son rickshaw. Il y a également aménagé un tout petit espace où il peut se loger. Eh bien, félicitations à Joseph Hugues Bélanger. Et ça nous montre qu'on ne doit pas lancer la serviette envers les itinérants. C'est un bel exemple, mesdames et messieurs. Et ça vaut la peine qu'on lui fasse part de nos encouragements. J'espère qu'il va persévérer et je trouve ça très louable. Je vous invite à lire cet article. Une source d'espoir. Sur ce, mesdames et messieurs, puisque l'émission tire à sa fin, je vous invite à consulter les liens qui sont reliés aux articles qui ont été cités dans cette émission. Ils sont accessibles via décentrer le discours ou sur le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Vous pouvez y avoir accès également sur ma page Facebook via ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Eh bien, mesdames et messieurs, j'aimerais vous laisser en vous disant bonne lecture, bonne réflexion et surtout, bons échanges avec les gens de votre entourage. Pour ma part, je vous dis à demain.